France Culture. Et le journal est présenté par Julie Pacaud. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. L'électricité sera-t-elle rétablie dans chaque foyer mahoré d'ici fin janvier ? À Mayotte, les équipes d'EDF s'activent pour que la demande du Premier ministre soit respectée. Et dans le nord-ouest de l'archipel, la sécurité civile est à pied d'œuvre pour réparer les antennes relais. Quand des soldats ukrainiens formés en France décident de déserter, l'affaire révélée par un journaliste ukrainien suscite l'embarras de Kiev et de Paris, alors qu'une cinquantaine de soldats auraient déserté lorsqu'ils étaient encore en France. Et puis comment interdire la publicité d'alcool sur les réseaux sociaux ? La Belgique adopte une série de mesures pour protéger les adolescents de la communication bien rodée des alcooliers. Plus de trois semaines après le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, près d'un tiers des foyers restent encore privés d'électricité. Lors de sa visite lundi dernier, le Premier ministre a demandé que l'électricité soit rétablie dans chaque foyer fin janvier. Mais pour l'heure, c'est au nord-ouest de Mayotte que l'électricité manque le plus, comme à Akoua, une commune tout au nord de Grande-Terre. Un détachement des sapeurs-sauveteurs de la brigade militaire de la sécurité civile prête donc main forte pour réparer les antennes relais indispensables pour rétablir les connexions téléphone et Internet. C'est un reportage de Gilles Gallinaro et de Mathieu Laurent.
Là, c'est une équipe de Corté, c'est un détachement cyclone.
Il reste à dégager 600 mètres d'une piste de 2,5 km.
Ils ont avancé en tronçonnant.
Jonché d'arbres enchevêtrés.
Et plus on avance, plus le chemin devient difficile. Et boueux parce qu'il a plu.
Ça rend les conditions un petit peu plus rustiques, un petit peu plus difficiles.
Le chef de section, le lieutenant François.
Il est hors de question de reculer, la situation nécessite de travailler sans perdre de temps, même s'il pleut.
Les branches s'écrasent au sol à bon rythme, chaque geste est pensé.
Les arbres qu'on tronçonne sont entremêlés, parfois entremêlés dans d'autres arbres qui eux-mêmes ne sont plus solidaires du sol. Et donc là, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait un glissement et donc une chute de tronc.
Les sapeurs-sauveteurs excellent, Mikado.
On peut estimer que ça représente des milliers d'arbres sur une portion de 2,5 km.
Jordan, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît ?
Je suis déjà intervenu plusieurs fois sur des tempêtes violentes, mais c'est la première fois que je peux constater des dégâts aussi importants que ceux qui ont été occasionnés par le cyclone Chido.
En contrebas, Youssef, jardinier, rempote des semis. Le renouveau.
Mon travail, c'est de s'occuper des arbres, faire des arrosages, des rempotages pour tout ce qui est arbres, tout ça. Là.
On le retrouvera, le paysage d'avant le cyclone ?
Oui, on le retrouvera, oui. Il suffit de quelques mois de pluie et puis tout va repartir. Ah oui, je suis sûr. Oui.
Et l'antenne du Mont Djabali reprendra du service sous peu. Les sapeurs-sauveteurs sont allés au bout de la piste. Mission accomplie.
À Mayotte, où le préfet François-Xavier Bieuville annonce qu'un plan d'évacuation des centres d'hébergement d'urgence sera enclenché dès le début de la semaine prochaine, de façon à récupérer ces centres pour la rentrée scolaire. Des camps avec des tentes pourraient être installés pour reloger temporairement les sinistrés. Des tracteurs attendus demain sur les axes franciliens. La coordination rurale, deuxième syndicat agricole, appelle ses adhérents à monter sur Paris dès demain afin d'y manifester lundi. Le syndicat est insatisfait de la rencontre proposée par le Premier ministre le 13 janvier prochain, jugeant cette réunion trop tardive. Les préfectures de police de Paris et du Val-de-Marne ont donc interdit via des arrêtés les rassemblements non déclarés de demain 18h à lundi midi. La Russie promet des représailles après des tirs de missiles attaqués Metz. Ces missiles américains longue portée utilisés par l'armée ukrainienne depuis novembre dernier. 8 d'entre eux qui visaient la région de Belgorod ont été interceptés hier par l'armée russe. Tandis qu'en Ukraine, des investigations sur des cas d'abus de pouvoir et de désertion au sein de la brigade Anne de Kiev ont été ouvertes par les autorités. Anne de Kiev, du nom de cette brigade de 4500 hommes, dont la moitié a été formée en France à l'automne dernier, érigée comme un symbole de la coopération militaire entre l'Ukraine et la France par Emmanuel Macron. Or, d'après l'enquête d'un journaliste ukrainien, plusieurs centaines de soldats auraient déserté ses rangs à leur retour en Ukraine. Certains seraient même restés en France pour échapper au combat. Et cette affaire, Boris Loumane, embarrasse aussi bien Kiev que Paris.
Paris et Kiev misaient gros sur cette nouvelle brigade, mais les résultats sont loin d'être à la hauteur des ambitions. D'après un journaliste renommé, en Ukraine, près de 1700 soldats ont déserté cette brigade à leur retour au pays. Une cinquantaine d'hommes auraient même fui l'armée pendant leur formation en France. Alors du côté du ministère français des armées, pas de confirmation à ce stade, nous dit-on, et de la prudence sur les chiffres avancés. En Ukraine, les autorités ont ouvert une enquête parce que sur place, l'affaire affaire fait grand bruit, une députée évoquant notamment une brigade zombie formée à des fins de publicité. En fait, d'après le journaliste qui a révélé l'affaire, la brigade a été démantelée à son arrivée dans le pays, ses hommes dispersés pour boucher les trous dans d'autres brigades affaiblies par des mois de combat. Et puis des jeunes recrues à peine sortis de leur formation en France ont été envoyés sur certains des points les plus chauds du front. De nombreux dysfonctionnements donc, mais pour autant, la collaboration franco-ukrainienne va se poursuivre, puisqu'une deuxième brigade doit être bientôt formée en France.
Boris Loumagne pour France Culture. Plus de 30 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza aujourd'hui, et ce au lendemain de l'annonce par le Hamas de la reprise des négociations de trêve à Doha, une reprise non confirmée par Israël. Dans ce contexte, l'administration Biden a approuvé aujourd'hui une vente d'armes à Israël estimée à 8 milliards de dollars. Une vente qui doit encore être validée par le Congrès américain. Faut-il abattre les loups ? La question fait débat en France, mais également en Suède, où le gouvernement entend réduire de moitié la population de ces grands carnivores sur le territoire afin de passer de 375 actuellement à 170 individus. Une décision qui s'inscrit dans une tendance européenne à faciliter les abattages de loups et qui suscite bien des critiques dans le pays où la chasse aux loups a officiellement été ouverte jeudi. Précision d'Otila Ferré, correspondante en Suède.
Au premier jour de la chasse en Suède, 10 loups ont été tués. En tout, cette année, 30 pourront être abattus. Cette chasse annuelle sous quota enfreint la législation européenne et ce depuis 2010, selon Magnus Orebrandt, président de l'association suédoise des carnivores. Car il le rappelle, le prédateur est en théorie en tout cas une espèce menacée.
Nous avons déposé une plainte officielle en 2011 qui n'a toujours pas été traitée par l'Union européenne. Ici, les politiques veulent montrer qu'ils se préoccupent des zones rurales et pour ça, il faut détester le loup. Mais ce n'est pas un réel problème, ce n'est que de la politique. Le lobby de la chasse a énormément de pouvoir. Il s'infiltre un peu partout. On a aujourd'hui un premier ministre, une vice-première ministre et un ministre des Affaires rurales qui sont des chasseurs dévoués. Évidemment que ça influe sur la politique et ça entache la Suède.
Le loup joue pourtant un rôle clé dans l'écosystème en Suède. Magnus explique que réduire leur nombre pourrait mener à leur perte. Il faudrait plutôt importer plus de loups car ils sont déjà menacés par la chasse illégale et les problèmes de consanguinité. Pour Mikael Samuelsson, vice-président de l'association suédoise des chasseurs, il en est hors de question.
C'est une tradition, un style de vie pour nous, la chasse. On a maintenant des loups partout en Suède et c'est un vrai problème pour les éleveurs. Même si on installe des clôtures anti-prédateurs, ça ne suffit pas. Et si on devait enfermer le bétail, ça coûterait très très cher. Notre but, c'est d'avoir le moins de loups possible, 150 maximum.
Il se pourrait bien qu'il obtienne gain de cause, car dès mars 2025, le statut de l'animal sera rétrogradé de strictement protégé à protégé. De quoi faciliter encore plus son abattage.
Otilia Ferret, 8 adolescents sur 10 voient de la publicité pour l'alcool chaque semaine sur leur smartphone. Entre pubs ciblées et valorisation de l'alcool par des influenceurs, ils sont la cible de vastes campagnes marketing en France, mais également en Belgique, où le gouvernement a donc décidé de s'attaquer à ce problème de santé publique majeur en imposant depuis le 1er janvier une série de mesures pour encadrer la publicité de l'alcool sur les plateformes comme TikTok ou Snapchat, mais également près des écoles. Elsa Loswarn.
Cette publicité pour de la bière installée près d'un abribus vit ses derniers moments. Située à moins de 150 mètres d'une école, elle n'a plus le droit d'être affichée là depuis le 1er janvier. Une mesure saluée par les familles.
C'est très bien, je crois que tout ce qu'on peut faire, ça, il faut le faire. On dit toujours que ce sont l'accumulation de petites choses qui à un moment donné donnent des résultats.
Si effectivement on peut interdire que des gens montrent un exemple de boire aux alentours d'une école, bah, tant mieux.
Parmi les autres mesures phares, l'interdiction de promouvoir l'alcool sur TikTok et Snapchat, l'interdiction aussi de faire figurer des personnalités dans les publicités. Des mesures très symboliques mais insuffisantes pour Martin de Duve, expert en santé publique spécialisé en addictologie.
C'est un bon début, mais il faudrait aller beaucoup plus largement vers une interdiction générale de la publicité pour l'alcool. C'est le seul psychotrope pour lequel on peut encore faire de la publicité, ce n'est pas normal. L'alcool, c'est quand même la deuxième cause de mortalité évitable juste derrière le tabac. Il est temps aussi que l'État prenne ses responsabilités.
Dans un pays où l'on peut acheter vin et bière dès 16 ans, où environ un Belge sur 10 déclare une consommation excessive, les experts de santé attendent plus.
L'État est complice de la surconsommation des Belges en n'adoptant pas une série de mesures pour protéger notamment les mineurs.
Un système d'intelligence artificielle doit être mis en place pour contrôler le respect de la mesure sur les réseaux sociaux.
Elsa Loswarn. Enfin, cette information de dernière minute. On apprend ce soir la mort de Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement Jospin. S'est éteint aujourd'hui à l'âge de 87 ans. La météo s'annonce glaciale dans les heures à venir. Sur le nord et l'est du pays, 30 départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas. Météo France prévoit des pluies verglaçantes et des chutes de neige qui peuvent être plus persistantes sur les départements de la région Grand Est. Demain matin, le redoux se généralisera sous un ciel maussade. Comptez entre 5 et 10 degrés en moyenne au réveil. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Sam Basquiast, Anthony Thomasson à la technique.